Les alliés de l'Ukraine se réunissent aujourd'hui à Londres autour du Premier ministre britannique Keir Starmer et en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Nouvelle rencontre de cette coalition des volontaires qui porte notamment sur la livraison d'armes de longue portée à l'Ukraine. Les dirigeants européens qui ont par ailleurs demandé hier à la Commission d'explorer les moyens de financer l'Ukraine sur les deux années à venir. Et il est question d'utiliser les avoirs russes gelés. Mais bonjour Fabien Cazot.
Bonjour Marie, bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Bruxelles. Certains pays y sont réticents et parmi eux la Belgique.
Oui, car la grande majorité des avoirs russes gelés en Europe, environ 200 milliards d'euros, se trouvent aujourd'hui domiciliés dans une société financière belge dénommée Euroclear. Ce sont surtout les représailles russes en cas d'utilisation de ces avoirs pour soutenir l'Ukraine que craint la Belgique. Le soutien d'accord, précise le Premier ministre Bart De Wever, mais à condition que les 27 ne laissent pas son pays en première ligne face à la Russie de Vladimir Poutine.
Il nous faut une mutualisation des risques, parce qu'on risque que la Russie va lancer des recours pour des dizaines de milliards d'euros, même des centaines de milliards d'euros. C'est dangereux. Il y a des autres pays où il y a aussi des avoirs gelés qui n'ont jamais parlé là-dessus. Donc il me faut de la transparence, qui à combien. Et si on bouge tous ensemble. Sinon, on risque que la vengeance russe va se focaliser sur la Belgique. Et la vengeance peut être très concrète. Ils peuvent saisir des entreprises belges en Russie. Les Russes, ils vont réagir.
Message entendu par les autres États membres de l'Union européenne, Fabien, qui veulent se donner un délai supplémentaire.
Oui, ils donnent mandat à la Commission pour leur faire une nouvelle proposition d'ici décembre. L'idée de ce prêt mobilisant des avoirs gelés russes n'est pas enterrée, hein, précisait encore Emmanuel Macron hier soir. Mais le Conseil européen souhaite aussi explorer d'autres pistes en parallèle et demander à la Commission de sécuriser le dispositif d'un point de vue juridique. Car c'est ce que souligne le Premier ministre belge, il faut un fondement juridique. Clair, un prêt ainsi gagé sur des avoirs gelés n'a jamais été imaginé auparavant. C'est une première, même pendant la Seconde Guerre mondiale, souligne la Belgique, qui semble presque prendre au mot ses partenaires européens. Eux se sont toujours déclarés soucieux de montrer leur attachement au strict respect du droit international. Pour ne pouvoir pas être accusé par la Russie de spolier ses actifs gelés, question de crédibilité aussi auprès de l'ensemble des investisseurs internationaux qui doivent pouvoir continuer à faire confiance au système financier européen.
Et nous sommes en ligne, merci Fabien Cazot, avec le président de la Fondation Robert Schuman. Bonjour Jean-Dominique Giuliani.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. La Belgique a raison de se méfier, de demander des garanties aujourd'hui.
Écoutez, c'est assez légitime parce qu'elle héberge quand même la majorité des avoirs financiers russes. Et donc, à partir du moment où les Européens veulent s'en servir pour les adosser à un emprunt en vue de financer jusqu'à 140 milliards d'euros les dépenses ukrainiennes, c'est normal qu'ils prennent des garanties. Et je pense que ces garanties seront trouvées assez rapidement. Et effectivement, c'est techniquement un peu compliqué.
Mais naïvement, on pourrait se dire que de toute façon, dans pareil cas, la solidarité européenne jouerait, non ?
Oui, enfin, si Euroclear est une société privée, elle se trouve en Belgique, si le gouvernement intervient, il veut la garantie de ses partenaires, c'est un peu normal.
Voilà. Pour qu'on comprenne bien, c'est que jusqu'ici, finalement, ce ne sont que les intérêts que génèrent ces avoirs russes qui ont été utilisés, c'est ça ?
Jusqu'ici, et là il s'agit d'aller plus loin, il s'agit d'aller emprunter sur les marchés avec ce qu'on appelle en termes financiers un collatéral, c'est-à-dire une garantie qui soit l'ensemble des avoirs russes. Et cette garantie, donc avec cet emprunt de 140 milliards, on pourrait aider l'Ukraine à financer ses activités d'État pendant 2 ou 3 ans, et cet emprunt ne serait remboursé que si la Russie, à l'issue de la guerre, accepte financer des réparations pour les dégâts causés en Ukraine. Donc vous voyez que c'est compliqué.
Et si la Russie ne paie pas de réparations, le risque retombe sur les États membres, c'est ça ?
Absolument. Alors à ce moment-là, on fait jouer la garantie et puis on saisit les avoirs russes. Et ce que dit le Premier ministre belge, c'est assez compréhensible. Si on saisit les avoirs russes, il peut y avoir des représailles russes sur les entreprises belges C'est déjà un peu le cas sur l'ensemble des entreprises européennes, donc la raison pour laquelle il faut être solidaire de la Belgique dans cette affaire.
Et le Premier ministre belge dit aussi « Je ne suis que la petite Belgique, la seule chose que je peux faire c'est de mettre en lumière les problèmes et de demander gentiment des solutions ».
Oui, et d'ailleurs les Européens les trouvent, mais en l'occurrence ça n'a jamais été fait. Et comme le disait votre correspondant à Bruxelles, même pendant la Seconde Guerre mondiale. Et vous savez que les règles entre banques centrales, entre grands acteurs financiers, même pendant les conflits, finalement restent immuables, parce que si on touche à quelque chose qui contribue à l'équilibre dans les grands échanges financiers, on risque d'avoir un effet château de cartes. Et c'est ça qu'on ne veut pas avoir avec la Russie. C'est pour ça qu'on ne saisit pas tout simplement les avoirs, malgré l'envie qu'on en a, compte tenu des dégâts causés par la Russie en Ukraine. On ne peut pas la spolier, parce qu'auquel cas, tout le système de l'euro, les banques centrales, nos banques, serait moins crédible vis-à-vis d'autres partenaires qui disent « Ah bon, ben, si on peut se faire saisir nos avoirs, on va se méfier deux fois de plus ».
Mais l'Union européenne vous paraît à même aujourd'hui, Jean-Dominique Giuliani, de mettre en place ce dispositif qui, vous l'avez rappelé, n'a jamais été imaginé, même pendant la Seconde Guerre mondiale ?
Oui, je pense qu'on va y arriver d'ici le début du mois de décembre. C'est franchement très compliqué. Mmh. Et comment le dire ? Vous savez, on peut... se payer de mots, on peut faire un peu le spectacle comme le président américain le fait tous les deux jours, mais en réalité, quand on touche au système financier international, là on ne plaisante plus, parce qu'il s'agit de la monnaie, c'est-à-dire ce que vous et moi avons dans la poche, et surtout les classes sociales les plus défavorisées, on ne joue pas avec l'inflation, on ne joue pas avec la crédibilité de la monnaie, on doit faire très attention. Et c'est la raison pour laquelle on doit, en l'occurrence, écouter les préoccupations de notre partenaire belge.
Et il s'agit là d'aider donc l'Ukraine pour les deux années à venir. Ça veut dire qu'on s'inscrit une nouvelle fois dans une guerre interminable ?
Là où les Européens ont été les plus efficaces, c'est en finançant l'État ukrainien, qui a continué à fonctionner malgré la guerre. Désormais, nous finançons aussi davantage d'équipements militaires que les Américains, mais nous continuons à avoir des financements humanitaires, des financements tout simplement de l'État, et on voit bien qu'en ce moment, il y a un problème d'énergie électrique, de chauffage à l'approche de l'hiver, avec les destructions que les Russes systématiquement entreprennent en Ukraine. Et donc, j'ai fait les comptes, les Européens ont financé jusqu'ici, depuis 2022, plus de 185 milliards d'euros en crédit militaire, en crédit civil, pour que l'État ukrainien puisse fonctionner, c'est-à-dire le double de ce que les Américains ont donné.
Jean-Dominique Giuliani, merci beaucoup pour votre éclairage en direct ce midi sur France Info, président de la Fondation Robert Schuman.